n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Avec Emmanuel Macron dans ce budget, ce sont toujours les mêmes qui vont payer.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
C'est l'heure de votre rendez-vous avec la vie politique en France. Voici Dimanche Politique.
Philippe Le Caplin.
Avec Romain Ouzoui, les prises de position des uns et des autres, essentiellement aujourd'hui celles de gens de la majorité présidentielle, hasard de programmation. Et nous décrypterons cette parole politique avec vous, Édouard Le Cerf. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général adjoint de l'Institut de sondage BVA. Ils sont moins nombreux dans la rue, mais ils sont toujours là. Les gilets jaunes étaient hier, à en croire les chiffres de la police, 51 400 sur l'ensemble de la France, Marseille, Metz, Lorient, Dijon, Caen ou encore Montpellier. C'est à Toulouse et Bordeaux que les contestataires étaient les plus nombreux. À Paris, ils étaient 4000. Et parmi eux, un homme qui a eu 4 doigts arrachés par l'explosion d'une grenade lors de heurts avec les forces de l'ordre devant l'Assemblée nationale. Il y a encore eu des échauffourées, des dégradations de voitures et de scooters. Cela fait 13 samedis consécutifs maintenant que les gilets jaunes manifestent. Cela devient un rituel dont se moquent certains. À l'étranger, surtout, on se gousse de cette révolution à la française hebdomadaire et aux heures ouvrables. Il n'empêche que cela dure. Édouard Le Cerf, où en est le soutien des Français d'ailleurs ?
Le soutien de l'opinion est toujours relativement fort. C'est sans doute un des éléments moteurs qui permet aux Gilets jaunes de se retrouver samedi après samedi dans les villes et dans la capitale. C'est un des soutiens, un des éléments forts. Il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer la raison pour laquelle on continue à voir les Gilets jaunes présents sur les ronds-points, peut-être un peu moins, mais en tout cas le samedi lors des manifestations. Le soutien de l'opinion d'abord, c'est un premier élément extrêmement fort. Vous avez eu des manifestations en France beaucoup plus importantes, beaucoup plus nombreuses en termes de personnes présentes dans les rues à revendiquer, mais sans le soutien de l'opinion. Et sans soutien de l'opinion, c'est beaucoup plus difficile de durer. Ils le disent d'ailleurs, les gilets jaunes. Quand vous les interrogez, vous leur dites, alors vous avez le soutien de l'opinion, ils nous disent, si ça s'arrête, peut-être que nous arrêterons, parce qu'ils n'auront plus cette légitimité, en tout cas celle d'une opinion représentée par les sondages. Ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est un des éléments moteurs. Et puis deuxième chose, ils ont aussi, d'une certaine manière, pour la majorité d'entre eux, en tout cas aujourd'hui, refusé le passage par les urnes, par exemple, ou par le grand débat, qui étaient des moyens, effectivement, peut-être de canaliser, des moyens de comptabiliser aussi. Je pense que derrière le refus de passer par les urnes, il y a aussi un refus de se faire compter à travers un système classique, habituel, pour lequel, lorsque l'on dit il y a un soutien de 65% de l'opinion et qu'en face vous avez éventuellement 3, 5, 10, même 15% des intentions de vote, ce n'est pas la même chose.
Oui, j'allais dire, c'est presque paradoxal. Il y a l'ouverture de ce grand débat national qui est finalement la possibilité d'une expression populaire, ce que demandaient les Gilets jaunes, et pour autant, le mouvement continue.
Le mouvement continue. Alors, ça n'est pas antinomique pour les Français, d'ailleurs. On a posé la question de savoir, est-ce qu'à votre avis, pendant le grand débat, est-ce que les affaires continuent? Est-ce que l'on doit continuer à revendiquer? Est-ce que les manifestations des Gilets jaunes doivent se poursuivre? Les Français sont assez partagés, mais vous avez encore un Français sur deux qui dit oui, il faut continuer pour maintenir une forme de pression. Mais pour autant, vous avez 8 Français sur 10 qui disent, ceux qui soutiennent les Gilets jaunes doivent participer au grand débat. Donc il n'y a pas d'opposition dans la tête des Français entre ces deux éléments-là. C'est aussi une des clés d'explication de pourquoi ces deux éléments vivent en parallèle, parfois avec un peu de chevauchement, parce que il doit y avoir de temps en temps des personnes qui sont d'un côté et de l'autre, mais ça continue à vivre en parallèle.
Et cela fait maintenant 3 mois que dure ce mouvement des Gilets jaunes, et depuis un trimestre, eh bien plus de 70 députés ont été bousculés, menacés ou ont subi des dégradations de leurs biens, vitrines de permanence électorale brisées, tags sur leurs murs, mur de parpaing construit à la hâte devant leur garage, courrier promettant une pendaison ou une décapitation. Et puis, il y a eu l'attaque au bien du président de l'Assemblée nationale, Romain Ouzoui.
Oui, c'était vendredi soir. Le domicile, effectivement, de Richard Ferrand, victime d'une tentative d'incendie. L'origine criminelle ne semble pas faire de doute, a rapidement affirmé l'Assemblée nationale dans un communiqué. Alors, cet événement a entraîné une vague d'indignation de la classe politique. Derrière cet acte, le message est lourd pour Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs Les Républicains.
C'est à travers Richard Ferrand, évidemment, un symbole. C'est la République qui est visée. C'est le Parlement, c'est-à-dire la démocratie représentative. Et il est visé, en plus, dans sa personne et dans son intimité familiale. Quand les hommes ont inventé la démocratie, c'était pour régler de façon non violente les différends dans l'espace public. C'est donc la démocratie elle-même que remet en cause cette violence-là.
Voilà, la démocratie donc remise en cause selon Bruno Retailleau qui s'exprimait sur Europe 1. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, indique avoir adressé un message personnel de solidarité à Richard Ferrand. Et puis à l'opposé, sur l'échiquier politique, Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, elle aussi, elle a fait part de son indignation.
Je considère que ces faits sont inadmissibles. Ce sont des faits de violence à l'égard d'élus. Or, on ne s'attaque pas aux élus, ni à leur domicile, ni à leur famille. Ce sont des choses qui sont tout à fait condamnables. On est obligé de constater qu'il existe une montée de la violence. Et cette violence, elle devrait évidemment scandaliser tout le monde. Quels que soient, encore une fois, les élus qui en sont les victimes.
Marine Le Pen au micro d'Anne Souhaitemont. Où se trouve l'origine de cette violence? Invitée de France 3 ce dimanche, Brune Poirson, la secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, évoquait à la fois la tentative d'incendie du domicile de Richard Ferrand et les menaces, vous l'avez dit Philippe, qui ont visé plus de 70 députés. Et Brune Poirson a explicitement évoqué le rôle de la présidente du Rassemblement National. On écoute Brune Poirson.
Moi je crois que derrière ça, il faut aussi que les oppositions, elles arrêtent de jouer un jeu de dupes. Moi, je vois Marine Le Pen, par exemple. C'est vraiment Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Face caméra, elle accuse. Hors champ, elle excuse. Et c'est ce genre de double visage, ça mène à des violences. On peut pas souffler comme ça le chaud et le froid.
Et en voilà un qui accuse ce soir, c'est Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, invité sur LCI à réagir à d'autres violences, celles qui se sont produites hier lors de la manifestation parisienne des Gilets jaunes à Paris. Violence scénarisée par Christophe Castaner, affirme Nicolas Dupont-Aignan, on l'écoute.
Ce ministre de l'Intérieur organise implicitement des heurts inacceptables et toujours, toujours, à un endroit précis sous les caméras de télévision.
Mais quel intérêt le ministre du gouvernement aurait
l'intérêt d'organiser montrer ces images pour dégoûter les Français de la protestation sociale sincère de gens qui travaillent, qui veulent simplement vivre de leur retraite, pour créer un climat, comment dire, de retour à l'ordre au profit du président de la République.
Alors justement, il est directement visé par Nicolas Dupont-Aignan. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, était ce dimanche l'invité de Questions politiques sur France Inter. Et pour lui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la parole politique a trop souvent tendance à banaliser ces violences. Christophe Castaner.
Il y a la banalisation de la mise en cause. La parole politique qui met en cause les institutions, qui met en cause le politique, contribuent aussi à cela. Et puis, il y a une sorte de remplacement, je disais cela. Les réseaux sociaux donnent des vérités, qui sont bien souvent des non-vérités, qui sont plus fortes encore que votre parole institutionnelle de journaliste ou celle du maire, du député, du ministre ou du président.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
Édouard Lecerf, directeur général adjoint de l'Institut de sondage BVA. Comment expliquer ce que l'on peut qualifier de démagogie anti-parlementaire?
Oh, ça vient de très loin, la démagogie antiparlementaire, peut-être pas certainement pas avec cette extrémisation-là, mais en tout cas, bon, lorsqu'on regarde les enquêtes depuis de nombreuses années maintenant sur la manière dont les Français considèrent la représentation nationale, les élus, les politiques en général, les journalistes, pourquoi pas les sondeurs, le regard d'une dureté extrême. Donc, cette dureté extrême, elle existe, elle est présente, en tout cas dans les opinions. Le fait qu'aujourd'hui, elle se potentialise à travers des axes extrêmes, oui, c'est très particulier, oui, c'est inadmissible, et oui, cela change. En général, c'était plutôt canalisé, on avait plutôt tendance à en débattre, mais là, on est dans un moment où, effectivement, de manière très singulière, le fait de pouvoir l'exprimer de manière extrêmement dure, pour certains, encore une fois, il ne faut pas généraliser, mais pour certains, est devenu un moyen, parce qu'il est visible, parce qu'il se répète, et la répétition est une forme de pédagogie un peu folle, c'est-à-dire répéter la violence en montrant qu'elle permet d'être visible et d'agir en quelque sorte. On part d'assez loin, encore une fois, de très loin sur la manière dont l'opinion est structurée.
C'est-à-dire la violence devient un moyen d'expression qui est toléré par le plus grand nombre, c'est ça que vous nous dites?
Non, pas toléré par le plus grand nombre, pas dire ça, mais il y a une minorité de Français, une minorité singulièrement importante de mon point de vue, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui sur quelque chose qui peut concerner même 15% de la population. 15% de la population, c'est beaucoup, qui acceptent de dire on frappe un journaliste parce qu'on n'en peut plus, on attaque ou on insulte un représentant de l'État parce que c'est impossible, parce que d'autres, on a vu nos camarades se faire frapper, etc. Aujourd'hui, c'est accepté d'une certaine manière, c'est toléré, en tout cas, c'est compris. C'est au sens où on ne le critique pas directement. Ça, c'est assez nouveau. Alors, Ça n'est peut-être pas complètement nouveau, parce qu'aujourd'hui, on pose la question de savoir si les gens l'acceptent. Mais on n'aurait pas posé cette question auparavant, parce que ça n'existait pas, parce que ça n'arrivait pas.
Ce qui n'existait pas non plus, c'était les chaînes d'information en continu, notamment les chaînes de télévision. Est-ce qu'il y aurait une sorte d'effet de banalisation de la violence par l'accumulation des images en direct ?
Les images sont tellement importantes. Si vous prenez, je pense que si on regarde le nombre d'heures qui ont été diffusées sur toutes les antennes, sur toutes les radios, naturellement, dans ce total d'heures, vous avez des moments violents. C'est naturellement ce que l'on retient, mais en proportion, il n'y a peut-être pas beaucoup plus de violence. Mais il se trouve que cette violence, vous avez raison, il y a du focus dessus, une focalisation importante, mais dans la durée, effectivement, c'est aussi parce qu'il y a durée, et encore, et encore, et encore, et à un moment. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il y a un effet miroir qui est un effet un peu dangereux, c'est-à-dire que montrer les choses, c'est permettre aux gens de se voir, et se voir, c'est parfois, ça amène parfois à avoir des comportements qui dépassent un peu même l'intention première.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplain.
Un sondage IFOP montre que 73% des Français sont favorables à l'organisation d'un référendum prochainement. Ce sondage est publié aujourd'hui par le journal du Dimanche. C'est ce qui ressort aussi, même s'il n'y a pas encore de compilation complète, des cahiers de doléances ou encore des réunions tenues dans le cadre du grand débat national. À ce propos, le président de la République est allé à la rencontre d'un millier de jeunes. Jeudi dernier, c'était à Autun, en Bourgogne, Romain.
Et c'était l'occasion, comme souvent, lors des participations d'Emmanuel Macron au grand débat, l'occasion d'observer quelques passes d'armes comme celle-ci. Écoutez plutôt.
Moi, je m'appelle Estelle Ferrandès. Je suis volontaire à l'insertion dans l'emploi. Et puis, donc voilà, logo, polo rouge, voilà. Je voudrais parler de la notion du handicap et principalement des personnes autistes. Donc, je voudrais en fait lancer un point d'appel. Alors, s'il vous plaît, faites remonter l'info comme quoi ne plus utiliser les autistes comme insulte. Parce que François Fillon, à un moment, il a utilisé l'autisme en disant « Oh, on n'est pas des autistes !» Alors, s'il vous plaît, hein, on arrête maintenant.
Voilà, le témoignage de cette jeune femme et la réponse d'Emmanuel Macron.
Ce qu'on est en train de développer... On a commencé à améliorer les choses, mais on a encore, je vais pas vous mentir, beaucoup de boulot. C'est d'avoir des gens qui accompagnent. On peut pas demander à l'instituteur ou au prof de s'occuper en plus de quelqu'un qui est plus fragile, qui a des difficultés différentes, qui a ses spécificités. Il faut parfois qu'il y ait pendant un tiers, la moitié ou la totalité de son temps scolaire, quelqu'un qui l'accompagne pour l'aider à apprendre.
Emmanuel Macron qui tente, c'était donc jeudi, de défendre la politique du gouvernement sur la question du handicap. Alors, cette question qui a été l'un des sujets beaucoup commentés en Bourgogne lors de ce débat, est-ce à dire que ça y est, enfin les jeunes s'emparent du débat? Pas sûr, la fracture reste profonde avec le monde politique. En témoignent ces paroles rapportées ce dimanche par Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui a accompagné le chef de l'État lors du débat de jeudi.
C'était intéressant, à la fin du débat, certains disaient, ils venaient de faire 5 heures de débat politique, en étant sur les sujets de société. Ils disaient, mais nous on n'est pas intéressés par la politique, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas le lien, spontanément, entre les sujets de société et la politique. Or, que traite de la politique ? La vie en société. Et donc c'est là où il y a une reconquête à faire, qui est la politique, c'est pas les chicailleries qui croient, c'est dessiner son avenir, et c'est quand même le leur qui est le plus important, c'est eux qui vont vivre le plus longtemps par rapport à nous.
Muriel Pénicaud, ministre du Travail, invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos ce dimanche.
Emmanuel Macron au devant des jeunes, Édouard Le Cerf de BVA. Pourquoi est-ce que les jeunes n'impriment pas ? Que vous disent-ils quand vous les interrogez sur leur volonté ou pas d'intervenir dans le débat politique en France ?
Ça fait là aussi, pardon, j'ai le sentiment de tout ramener un peu à l'histoire, mais le rapport des jeunes à la politique est un rapport qui est distendu depuis très longtemps. Regardez simplement les éléments de structuration de la participation en France. Les jeunes font partie de ceux qui participent le moins, et pas qu'en France. Le Brexit aurait sans doute eu un autre destin si les jeunes anglais s'étaient mobilisés dans des proportions aussi importantes que ceux de leurs aînés. Et le rapport des plus jeunes à la politique, en France et en Europe, est un rapport qui est extrêmement distendu. D'abord parce qu'en général, on commence à intégrer les éléments de structuration politique, en général, lorsqu'on rentre dans la vie active. Il y a une part, bien sûr, des jeunes, je généralise un peu trop, mais une part des jeunes qui est impliquée syndicalement, etc. Mais il y a un rapport distendu. Pourquoi ? Pas parce qu'ils ont le sentiment, lorsqu'on les interroge un peu en profondeur, et bien qu'on ne parle pas de leur sujet, que tout cela est un peu éloigné de leurs préoccupations les plus quotidiennes, qu'ils ont aussi le sentiment, il y a une part de critique aussi sur la manière dont le système leur permet d'entrer dans la vie active. À partir du moment où vous avez une part de la population plus importante que la moyenne, qui est déjà importante, de jeunes qui ne rentrent pas facilement dans le marché du travail, eh bien, il y a la question de l'efficacité de la politique. Donc, pourquoi aller voter? Ça amène aussi les jeunes, lorsqu'ils vont voter, à avoir aujourd'hui des façon de voter un peu particulière. On l'a vu lors des dernières élections présidentielles, les jeunes et les votes extrêmes sont des choses qui se recoupent plus qu'auparavant.
Et il y a un sujet qui ne fait pas partie du débat national, auquel participent peu ou prou les jeunes. Une très large majorité de Français assujettis à l'impôt sur le revenu estime que le prélèvement à la source, mis en place depuis le début de l'année, est une bonne chose. C'est ce qui ressort d'un de vos sondages réalisés pour la Tribune. C'est ce qui explique que Emmanuel Macron finalement reprend des couleurs dans les études d'opinion avec à peu près une trentaine de pourcents de popularité.
Ça peut faire partie des éléments, un des petits éléments qui va améliorer la popularité d'Emmanuel Macron, qui est encore relativement limitée, hein, elle à peu près au niveau de celle de François Hollande à la même époque dans son mandat. Le fait d'avoir réussi en quelque sorte quelque chose, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis 6 mois, 8 mois, 9 mois à chaque fois. Souvenez-vous, hein, depuis l'été de l'année dernière, on avait malgré tout le sentiment que Emmanuel Macron, le macronisme, les macroniens, le gouvernement étaient un peu à l'arrêt, avaient du mal à reprendre la main et qu'à chaque fois il y avait une nouvelle affaire, un nouveau problème qui venait un peu bousculer la manière dont ils pouvaient mettre en avant la politique française, etc. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir repris un peu de maîtrise est sans doute un élément plus explicatif. Et on va dire, l'impôt à la source en est une toute petite expression.
Et à propos de la popularité d'Emmanuel Macron, la ministre du Travail a fait un mea culpa aujourd'hui, Romain ?
Oui, parce que le rebond d'Emmanuel Macron, malgré cela, Emmanuel Macron ne recueille que 27% d'opinions favorables, vous l'avez dit, Édouard Le Cerf. Et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a dit que la méthode devait évoluer. Elle était l'invitée d'Europe 1 ce dimanche.
Je pense fortement que tout ce qui se passe depuis 2-3 mois montre que, en termes de méthode, on doit évoluer, on doit changer des choses. Alors, il y a des sujets avec les partenaires sociaux, d'autres, ça sera la démocratie participative sous différentes formes. Mais cette démocratie sociale, cette démocratie participative, elles doivent nourrir la démocratie représentative. Il faut articuler les trois et je pense qu'on a des progrès à faire là-dessus.
L'exécutif doit donc faire des progrès, reconnaît ce dimanche la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
Et la semaine politique a également été marquée par un départ au sein de la majorité.
Oui, celui du député Mathieu Orphelin, figure des marcheurs, proche de l'ex-ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot. Et d'ailleurs, Mathieu Orphelin démissionne pour les mêmes raisons. Il était l'invité de BFM jeudi matin, donc au lendemain de l'annonce de son départ. On l'écoute.
Sur aucun des grands chantiers, aujourd'hui, on est au rythme suffisant. Sur la rénovation énergétique, sur la mobilité, sur l'agriculture et l'alimentation, sur l'économie circulaire, sur tous ces sujets-là, il faut accélérer à fond. Et en plus, ça n'a que des avantages. Des fois, j'aimerais bien que les actes soient plus forts et que la direction qu'il donne au gouvernement soit plus fort.
Mathieu Orphelin qui aimerait donc que les actes d'Emmanuel Macron en matière d'écologie soient plus forts. La secrétaire d'État à la transition écologique justement était sur les plateaux de télé ce dimanche. Brune Poirson, invitée à réagir au départ de Mathieu Orphelin.
Moi, je trouve aussi, et ça c'est de façon plus générale, que depuis le départ de Nicolas Hulot, il y a une petite musique qui est quand même très facile et dans laquelle beaucoup tombent. Certains tombent en tout cas par facilité, qui est de dire que, et systématiquement de se dire que le gouvernement recule en matière écologique. Je dis simplement que si on veut changer les choses, il faut avoir aussi parfois le courage de le faire de l'intérieur.
Brune Poirson, secrétaire d'État à la transition écologique, invitée de France 3 ce dimanche.
Édouard Le Cerf, un départ, on l'a vu, 50 députés République En Marche qui s'abstiennent lors du vote de la loi contre les casseurs. Vous diriez que le parti REM mûrit avec des dissensions, des craquements, des prises
oui,
de distance.
Il devient... pas un parti comme un autre, parce que c'est justement pas un parti comme un autre. Et c'est aujourd'hui, c'est un parti qui fonctionne essentiellement, ou qui a fonctionné à la dynamique collective, et j'allais dire en quelque sorte à la réussite. À partir du moment où vous avez moins de réussite, à partir du moment où les choses avancent moins, où cette dynamique ne vous entraîne pas, c'est un peu comme une émulsion, si vous voulez. Hein. Vous avez naturellement, dans La République En Marche, des gens qui viennent d'un peu partout. C'est normal, vous avez de l'huile et de l'eau. Quand vous avez de l'émulsion, que les choses avancent, tournoie vite, eh bien on se sent solidaires les uns les autres. Quand il y a des craquements, et effectivement quand en plus un certain nombre de mesures sont prises dans un sens qui met en difficulté ou qui rappelle d'où viennent ceux qui ont rejoint La République En Marche en venant plutôt plus de la gauche, ben vous avez ce phénomène tout à fait normal, effectivement un peu de décantation, effectivement. Quand, vous savez, Emmanuel Macron disait, a écrit un livre avant l'élection présidentielle, ça s'appelait Révolution. La Révolution, c'est Mao Tse-Tung qui disait, la Révolution c'est comme un vélo. Quand ça n'avance plus, ça tombe. Eh bien, La République En Marche, la Macronie, ça marche aussi à la dynamique.
Merci pour ces analyses et commentaires, Édouard Le Cerf, directeur général adjoint de l'Institut de sondage BVA. La politique encore sur RFI, ce sera demain matin Yannick Jadot qui sera l'invité de la rédaction, député européen, tête de liste des écologistes à l'élection
européenne. C'était Dimanche Politique, réalisé par Hélène Avril.